pas mon témoignage de comment je suis devenue enfant de Dieu, mais c'est un témoignage qui commence après avoir reçu la vie éternelle. Fait que c'est aussi une partie que je n'ai jamais partagée. Et donc, vous êtes les premiers à l'écouter ce soir. Lorsque j'ai reçu la vie éternelle, le lendemain de ma nouvelle naissance, j'étais dans la joie du Seigneur. J'avais reçu le pardon du péché. Je savais que j'allais au ciel. Tout cela m'était garanti par les promesses de Dieu écrites dans la Bible. J'étais sûre de ma destinée éternelle, car celle-ci ne dépendait plus de moi, mais elle dépendait de celui qui a promis, de sa parole, de ce qu'il confirmait dans la Bible être le sort de tous ceux qui plaçaient leur confiance en son Fils pour la vie éternelle. Ces versets que je lisais alors dans la Bible étaient devenus la source de mon nouveau bonheur. Ils contenaient tous les trésors cachés de la vie spirituelle, de la vie éternelle. Je les consommais comme des bonbons au miel. Ils faisaient le bonheur de mon âme. Ils m'assuraient de l'amour de Père envers moi, son nouveau-né. Ils me révélaient Jésus dans sa plénitude. Je ne sais pas si vous avez constaté aussi la même chose que moi, mais pour moi, avant d'être né de nouveau, la Bible était un livre religieux. Quand je le lisais, il me parlait d'un Dieu que j'étais étrange de lui, loin de ses promesses, et un Dieu d'amour que je ne connaissais pas, mais aussi un Dieu saint et juste qui révélait à travers sa parole les secrets de mon cœur et mon état de pécheur. Avant d'être né de nouveau, la Bible m'était alors étrangère, était difficile à comprendre et pas intéressante à lire au complet. Mais après avoir été sauvée par cette même parole qui me donne la vie, la Bible est devenue proche de mon cœur, essentielle pour connaître Dieu et nécessaire pour grandir dans ma foi. Après être née de nouveau, mes yeux étaient ouverts. Je pouvais voir la vérité de la parole. Dieu a aussi ouvert mon intelligence et je comprenais ce que je lisais. La Bible ne m'était plus étrange. Alors, c'est ce que je vivais en dedans de moi-même, ces temps-là, et c'était les premiers temps après avoir reçu la vie éternelle. Mais à l'extérieur de moi, ce n'était pas pareil. Parce que ma famille a mal reçu ma nouvelle foi, mes amis aussi. C'était des temps très difficiles pour moi, à l'intérieur, à l'extérieur de la maison. Je me suis trouvée seule et isolée. Mon seul refuge était la parole de Dieu. Je traînais tout le temps ma Bible avec moi. Je la lisais en cachette des fois. Je me trouvais dans les Écritures. Celles-ci parlaient exactement de ma situation. La Bible m'était alors vivante, réellement pertinente pour ma vie de tous les jours. Le temps passé, j'ai déménagé dans une autre ville pour mes études. Un environnement complètement différent, mais les mêmes réalités. Ma foi n'était pas bien accueillie et moi j'ai fini par la garder à moi seule. Elle vivait en dedans de moi seulement. À l'extérieur, je voulais vivre ma petite vie, ne pas déranger personne ni être dérangée. Les choses ne semblaient pas changer depuis que j'étais devenue un enfant de Dieu. À l'intérieur de la maison, c'était clair qu'on n'acceptait pas ma foi, et à l'extérieur, on ne semblait pas être intéressé. Alors, un mur commençait à s'ériger dans mes pensées à l'égard de la parole de Dieu. Une réflexion qui conduisait à une rébellion. Et mon raisonnement était comme suit. Depuis que je suis enfant de Dieu, qu'ai-je gagné à lire sa parole? Ni parents ni amis ont accepté Christ. Tout demeure pareil. J'ai des doutes envers la signification de passages difficiles à comprendre dans la Bible. Je ne leur ai pas trouvé une explication. Rien n'a changé. J'ai les mêmes luttes, les mêmes difficultés. J'abandonne. Dans ma rébellion envers le Père, j'avais pris la décision que je mets sa parole de côté. Je n'y suis plus intéressée à la garder, ni à persévérer dans sa lecture. À moins que le Père changeait quelque chose pour moi, j'étais partie de sa maison de grâce. Je voulais creuser des citernes ailleurs. La parole de Dieu n'était plus mon compagnon de vie. J'étais partie toute seule vers l'inconnu. Dans ce temps-là, je partais vers un nouveau pays pour faire une maîtrise en sciences. Ce n'est pas le Québec, c'est un autre pays. Donc, je partais de mon propre pays aussi. Sans le savoir, je ressemblais beaucoup à l'enfant prodigue qui quittait la maison de son père avec tout son héritage paternel et qui allait vivre en rébellion ailleurs. Il a fini par servir des maîtres durs qui le traitaient comme un esclave. Pour moi, ces maîtres durs étaient des idoles dans ma vie. La science en était un. Moi qui allais faire une maîtrise en science dans un pays qui croyait beaucoup en la science, j'étais très optimiste. Je pensais que j'allais trouver des réponses à des questions auxquelles la Bible ne m'avait pas encore répondu. Je pensais trouver des gens au service de la science, à l'esprit objectif, illuminé et libre. Cependant, c'était le grand désappointement qui m'attendait. Dieu a permis que je fasse un face-à-face avec mon idole. Je l'ai alors vu pour ce qu'il est réellement. A des yeux, mais ne voit pas. Des oreilles, mais n'entend pas. Ne bouge pas, ne peut rien faire pour moi. Car à la place de l'objectivité, j'ai trouvé la subjectivité. À la place d'esprit illuminé, j'ai trouvé les ténèbres. Et à la place de la liberté, l'esclavage. Un des grands philosophes de la science que j'avais rencontré là-bas a fait cette déclaration. La science est refutable. Dans la définition et le caractère même de la science est qu'elle est refutable. Je suis revenue à moi-même. Et dans le vide de mon âme que ma propre rébellion a créé, j'ai constaté que je ne pouvais pas bâtir ma vie sur ce qui est refutable. On ne bâtit pas sur un sable mouvant. Il fallait que je bâtisse sur le roc. Je commençais alors à chercher un retour vers la maison du Père. Je languissais pour la parole de Dieu. À ma surprise, le Père m'attendait. Il avait préparé un festin pour moi. À la manifestation de sa grâce, je me suis repentie dans ses bras. Repenti d'avoir méprisé sa parole, méprisé sa personne. La lecture de la parole de Dieu a alors repris dans ma vie. Aujourd'hui, je constate que lorsque je néglige la lecture de la parole, je déchaisse. Je deviens de plus en plus faible, facilement irritée et abandonnée à mes peurs et mes soucis. Je m'appuie sur mes propres ressources, alors que dans la parole, je m'appuie sur les ressources de Dieu. Un jour, j'ai demandé à un enseignant de la Bible si la lecture de livres chrétiens était aussi importante que la Bible. Il m'a répondu que jamais je ne devrais remplacer ma lecture de la Bible par des livres ou des sermons, car aussi spirituel qu'il soit, ne peut remplacer la parole de Dieu. Un autre m'avait dit, quelqu'un assez avancé en âge et qui a des dizaines d'années de vie chrétienne, assidu à la parole. Il m'a dit, à chaque fois que je lis la Bible, je découvre quelque chose de nouveau. Moi aussi, je constate cela. À chaque fois que je lis la Bible, même si c'est un passage que j'avais lu plusieurs fois auparavant, Dieu parle à travers sa parole pour me révéler quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, après plus de 20 années de ma nouvelle naissance, je suis convaincue d'une chose, que pour un enfant de Dieu, lire régulièrement la parole de Dieu n'est pas une option, mais une nécessité. Merci.
Wow, super, un bon témoignage. Mirella, il y a quelques années, elle nous a encouragé à lire le plan de la Bible. Il y a plusieurs types de plans de lecture qu'on peut faire. On peut lire tout le Nouveau Testament en un an ou on peut lire toute la Bible de façon chronologique. Et en suivant un plan, ça te permet qu'au bout de l'année, ben, tu as fait le tour. Tu sais. Parce que si on lit juste les versets qui ont été prêchés, jamais on va passer dans tous les passages. Et on doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, j'ai demandé ce témoignage-là parce que je veux continuer une série sur le fait que la Bible, elle est unique. Et on va tout simplement avancer les acétates. OK, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est que la Bible est unique par rapport à sa survie. Le mot « unique », non, on peut revenir juste en arrière, complètement en avant, c'est au début, là. Début de tout ça. Est-ce qu'elle marche, ma manette? Elle ne marche pas. OK. Au moins, je n'essaierai pas. Donc, le mot « unique », on avait vu avec le dictionnaire Larousse. Vas-y au prochain clic. Qui se distingue des autres par son originalité et ses qualités. Tu peux avancer. Donc, on avait vu que, dans cette série-là, on avait vu que la Bible était unique par sa continuité. On avait vu que la Bible n'était pas une anthologie. Quelqu'un peut me dire, c'est quoi une anthologie? Une anthologie, c'est un recueil de différents ouvrages qui ont été écrits par différents auteurs, puis on en fait un genre de recueil ou d'un livre. Si on prendrait 10 personnes qui pensent à peu près la même chose sur un sujet, et puis qu'on prend un sujet controversé, qui ont vécu dans la même époque, dans les mêmes 10 années, puis qu'on leur demande de nous donner leur opinion, ils vont arriver avec des contradictions. Hein? Et là, ici, on voulait montrer par l'argument de la continuité, c'est de dire que tout ce que je vais te mentionner ici, c'est tout. Si ça serait de différents auteurs, qu'on aurait juste ramassé leurs écrits, bien, ça ne pourrait pas faire un livre continu. Donc, c'est un livre qui est écrit sur 1500 ans avec au moins 40 auteurs dans divers endroits, diverses périodes, divers tons, divers continents, 3 langues, un éventail de styles littéraires, des sujets controversés et c'est une histoire ininterrompue du début jusqu'à la fin, OK, d'un Dieu qui se fait connaître en Jésus-Christ. C'est une histoire continue puis ça. Toute la recette est faite pour que ça se contredise, mais on a affaire à un livre qui est unique dans sa continuité. On avait vu aussi que la Bible était unique par sa... tu peux aller au prochain point? Par sa diffusion. Tu peux faire apparaître le prochain clic. On a vu que la Bible, les données les plus à jour qu'on a, c'est qu'on a environ 5 milliards de copies qui ont été imprimées et diffusées. Et celui qui est le plus proche dans les livres non-fiction, c'est Zhao Zedong. Ça se trouve être un livre qui a été obligatoire entre 66 et 71 dans le pays, dans la Chine communiste. Okay? Donc, ça n'a rien à voir avec la Bible qui, elle, n'est pas un livre qui est obligatoirement imprimé et lu. Tu peux avancer à la prochaine acétate, prochain clic. Tu peux avancer encore. OK. Oups. La Bible n'est pas un best-seller à tous les mois, donc il y a un mois qu'elle peut se faire dépasser par quelqu'un. Exemple, un super gros best-seller qui vient de sortir. Pendant un mois, elle peut être déclassée, mais sa long run, avec ses 5 milliards de copies, elle a dépassé tous les livres possibles. C'est le livre le plus diffusé dont le plus de gens la possèdent. Elle continue à être diffusée par des sociétés bibliques en partie ou en totalité à un rythme de 585 millions d'exemplaires par an. Et ça, c'est en 1998. Fait que c'est vraiment un livre qui est extraordinaire. J'ai mis d'autres livres à côté juste pour que vous voyez des livres comme les 3 autres livres, là, pour vous montrer que ça a été des livres de non-fiction qui ont eu quand même pas mal de popularité. Le Seigneur des Anneaux, je pense qu'il y a 100 millions de copies. Donc, ça vous donne une idée là, par rapport au Mao Zedong, 800 millions. Donc, c'est 1/8 de ça. Ça, c'est les plus hot là, qui ont sorti. Donc, c'est un livre qui est unique par sa diffusion. On continue. Il était aussi unique par sa traduction. Fais plusieurs clics. Avance doucement. En 2015... Vas-y, avance. La population mondiale de 7 milliards avance. Continue, avance encore jusqu'à temps que ça soit rien. Continue. Encore. OK. Donc, on a un livre qui est 90 % de la population terrestre présentement, elle a une portion de la Bible ou un Nouveau Testament ou une Bible en entière dans sa langue. Même s'il y a 58 % des langues qui ne l'ont pas dans leur langue, il y a 700 millions de personnes qui ont un projet pour en avoir. Donc, sur les ici, là, on a vu dans le dernier message qu'il y avait 1,242 milliard qui n'avaient rien. Mais dans ces 1,2 milliards-là, il y en a 700 millions de personnes qui ont un projet en cours de traduction pour eux. Mais il y a 500 millions de personnes, moins de 10 % de la population mondiale du monde, qui n'ont pas encore rien de traduit dans leur langue. Mais on disait que quand un livre était traduit en 12 langues, c'était un livre extraordinaire. Et là, on parle d'un livre qui est traduit dans 42 % des langues du monde, dans 2800 langues du monde environ. Fait que c'est extraordinairement un livre qui se démarque par sa traduction. Prochaine étape. Aujourd'hui, on veut voir qu'elle se démarque par sa survie. Avance à la prochaine acétate, fait les trois prochains clics. Elle survit au temps, elle survit aux persécutions et elle survit à la critique. Prochaine acétate. On va regarder par rapport au temps. La Bible survit au temps. Prochaine acétate. Les matériaux périssables qui ont nécessité la copie et la recopie manuscrite. Un papyrus, ça ne durait pas plus de 100 ans. Quand tu avais une copie qui avait 100 ans, il fallait commencer à penser à la recopier parce que le matériel ne subsistait pas, puis on aurait perdu des pages, voire des caractères. Donc, la Bible devait, pour être transmise jusqu'à nous, pendant 1800 ans, donc avant Jésus-Christ, 400 ans avant Jésus-Christ, puis jusqu'à les années 1500 environ, on a dû recopier, recopier, recopier et recopier encore pour être sûr qu'on l'ait aujourd'hui. Okay? Et donc, c'est un livre qui est remarquable par le fait qu'il a survécu tout ça. Elles n'ont pas perdu de leur style ni de leur justesse. Et on peut le fait qu'on a beaucoup de copies, les gens disent « Ah, mais il y a beaucoup de copies, fait que ça a fait le jeu du téléphone. » Non, le nombre de copies nous aide à voir les erreurs qui sont glissées dedans. Ce n'est pas vraiment de ça que je veux parler ce soir, mais regarde le nombre de copies qu'il y a. Prochaine acétate. Ça ici, j'ai mis, on voit presque pas hein, des lignes bleues, hein, mais ça, c'est les 10 livres de l'Antiquité les plus de nombre d'originaux qu'on a. On a l'Iliade d'Homère à 643 copies, Hérodote 8, Thucydide 8, Platon 7, Démosthène 200, César 10, Tite 19, Tacite 20, Pline 7, et le Nouveau Testament en grec, le nombre de manuscrits originaux. Vas-y. Ta-da-da! 5366. Et le Nouveau Testament traduit dans d'autres langues. 24 000 pour un total de pas loin de 30 000 copies anciennes qu'on a. OK? C'est assez extraordinaire, vous ne trouvez pas? Le nombre de copies de livres de l'Antiquité qu'on a. Et ce qu'on veut dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est que malgré les papiers périssables qu'on avait, on a quand même accès à 29 000 manuscrits anciens. Prochain clic. Il y avait une tradition, la tradition, excusez-moi, c'est parce que le fait que je n'ai pas accès à mes acétates, ça m'a un petit peu comme, je peux pas regarder vraiment là, il faut que je regarde où ce que je suis rendu. Fait que je suis désolé pour ça. Je vais me remettre dans la traque. Donc, il y avait une tradition talmudique pour les copistes. C'est important de savoir que c'était pas juste copier comme le gars, il regarde la phrase, puis il transcrit la phrase. OK? Il y avait une tradition pour copier. Il y avait quelques règles. On va avancer. Vas-y, avance. Talmudique, ça veut dire, le Talmud, c'est des règles du peuple juif, des règles orales du peuple juif qui avait mis par écrit. Donc, il y avait des règles qui existaient pour la manière de transcrire un texte. Hein? Les colonnes devaient faire entre 48 et 60, devaient faire entre 48 et 60 lignes et les lignes devaient être de 30 lettres. Donc, tu avais des colonnes. Il fallait qu'il y ait entre 48 et 60 lignes, puis il ne devait pas avoir plus de 30 lettres. OK? C'était mathématique, on devait compter. Ensuite, les copies devaient être effectuées à partir d'un manuscrit authentique. Il était interdit d'y apporter des modifications. Ensuite, on ne devait rien écrire de mémoire. Vas-y. Et les copistes devaient être juifs. Je pense que c'est tout pour ça. Prochain clic. Quand ils avaient fini la copie, les copistes devaient compter les lettres et les mots. Donc, la personne copiait et ne pouvait pas y aller de mémoire. Elle avait vu le mot, elle écrivait lettre par lettre et elle devait compter le nombre de lettres qui avaient été copiées. OK? C'est pas rien, là. Elle devait compter les lettres et les mots. Et le mot du milieu d'un tel livre devait arriver sur la lettre de tel mot. Donc, en comptant le nombre de lettres, puis en arrivant au chiffre 1782 de ce livre-là, c'était le chiffre milieu de ce livre-là, on devait arriver sur la lettre du milieu de ce mot-là, d'un tel mot. Okay? Et donc, c'était assez rigoureux. Vas-y. Le mot qu'on utilisait pour ça, c'était la massor, qui vient de massir, qui veut dire transmettre. Et la massor, un des fondateurs du judaïsme rabbinique, a dit « La massor s'enroule autour du texte comme une haie protectrice. » La massor, c'était donc leur tradition de transcription. On appelait ça la massor. Et il y avait plusieurs choses qui avaient été ajoutées depuis les scribes, depuis Esdras. C'était d'ajouter des consonnes et des voyelles parce que c'était une langue qui était seulement vocale. Et il n'y avait pas de voyelles. C'était une langue juste de consonnes, si on pourrait dire. Et il a fallu ajouter des points ou des barres pour faire des bruits. Et donc, ça l'a servi à ça, mais ça l'a servi aussi à... ça s'entourait autour du texte comme une haie protectrice parce que si le gars qui l'a copié, il a compté le nombre de lettres, le nombre de mots, puis il arrive à la bonne place, ben tu peux être sûr que ta copie que tu as est conforme à l'original ou est conforme au document que tu avais reçu avant. Ça l'a donné naissance aux massorètes qui, eux autres, sont 500 ans après Jésus-Christ, cette tradition-là. Vas-y. Vas-y. La tradition juive massora de conserver les textes donnait naissance aux massorètes de 500 ans après Jésus-Christ, à 1000 ans après Jésus-Christ, prochaine acétate. Les massorètes comptaient les lettres de la Bible pour garantir l'exactitude de sa transcription. La massor, il y a plusieurs types de massor. Il y avait la massor finale qu'on appelait cette façon de transmettre. C'était des indications statistiques à la fin des livres. Donc, les massorètes qui ont existé de 500 ans à 1000 ans après Jésus-Christ. Il écrivait le nombre de mots du livre, le mot, le verset et la lettre qui sont au centre du livre et le nombre de fois qu'une lettre, une expression particulière est employée dans le livre. Donc, combien de R qu'il y a dans le livre? À la fin, c'est écrit. Combien qu'il y a de Y, si on parlera en français, là? Tu as le nombre de Y, le nombre de R, le nombre de... La copie, elle devait avoir numériquement, pour toutes les lettres, le bon nombre de lettres, le bon nombre d'expressions. Et c'était quelque chose. Prochaine acétate. Un paragraphe qui décrit bien ça. Les Juifs les préservaient, les écrits anciens, comme un autre manuscrit n'a jamais été préservé. Avec leur massora, ils gardèrent un œil sur chaque lettre, sur chaque syllabe, sur chaque mot, sur chaque paragraphe. Dans leur culture existaient des catégories particulières d'hommes dont la seule tâche était de préserver et de transmettre des documents avec une fidélité quasi parfaite. Scribe, homme de loi, massorète. Qui compta jamais les lettres, les syllabes et les mots des œuvres de Platon, d'Aristote, de Cicéron ou de Sénèque? Pourquoi la question reste sans réponse, vous pensez? Personne n'a compté les syllabes, les mots, les lettres de ces œuvres-là. OK, on peut avancer à la prochaine acétate. OK, ça ici, je vous présente Shakespeare qui a écrit, tu peux avancer, 37 pièces. La Bible est faite de 66 livres de 31 102 versets, au moins en français. Ensuite, on avance. Elle a été écrite à 280 ans que ça fait qu'elle est reproduite et pourtant l'imprimerie existait quand Shakespeare est arrivé, OK? OK. Et on a une Bible qui a existé 1800 ans avant que l'imprimerie arrive, OK? 1800 ans de recopies manuscrites à la main avant l'imprimerie. Vas-y. 100 paragraphes font l'objet d'interprétations qui affectent le sens du texte dans les écrits de Shakespeare et 12 à 20 versets font poser des questions non sur le mot lui-même, si c'était ce mot-là ou pas, mais plutôt sur le sens de ce mot-là. Donc, ça touche plus au sens, à la signification. Donc, entre 12 et 20 mots dans toute notre Bible, qui, à cause des copies manuscrites, on ne comprend pas le mot exact de l'original sur 31 102 versets. Donc, Shakespeare, ça existait quand les machines écrites, quand la typographie existait, quand l'imprimerie existait. C'est quand même assez extraordinaire. On avance. La Bible a survécu aussi à la persécution. Ils ont été nombreux à vouloir la brûler, la bannir, l'interdire. Les sociétés communistes s'est interdit de l'avoir. Et en l'an 300, il y a un homme qui s'appelait, tu peux aller à la prochaine acétate, Dioclétien, Clétien, qui a écrit une lettre impériale, et tu peux avancer. Dans sa lettre, il disait qu'il fallait raser les églises, brûler les écritures, enlever les droits civils pour les employés qui étaient hautement placés. Donc, si tu avais une haute position, on t'enlevait toutes tes libertés. Puis, on t'enlevait ta liberté pour si tu persistais dans le christianisme. OK? Fait qu'imagine, c'est l'empereur du royaume de Rome, là, dans tout l'Empire romain. Tu perds tes libertés si tu continues à être chrétien, puis on brûle les Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était en l'an 303, je pense que c'était cet édit-là. Qu'est-ce qui se passe? 25 ans après l'édit de Dioclétien, l'empereur Constantin a ordonné que 50 exemplaires des Écritures furent préparés aux frais du gouvernement. Et c'est un historien du siècle d'après, qui l'a écrit au 4e siècle, qui a écrit que Constantin avait 25 ans seulement après l'édit de tout brûler, et le gouvernement payait pour avoir 50 copies de la Bible. Tu sais, nous autres, 50 copies de la Bible, c'est rien, là. Mais quand que c'est écrit ici, préparé, là, ça veut dire mis par écrit. C'est pas photocopié ou passé à l'imprimerie, là. C'est écrit à la main, là. Fait qu'ils ont engagé du monde pour avoir 50 copies aux frais du gouvernement. C'est quand même assez intéressant, non? Voltaire, quelques siècles plus tard, Voltaire qui a dit, vas-y, « Un siècle après moi, le christianisme cessera d'exister et passera à l'histoire. » Et oui, lui, il est passé à l'histoire. Puis quand il est passé à l'histoire, 50 ans après sa mort, la Société biblique de Genève a utilisé la presse typographique de Voltaire pour imprimer dans sa maison et reproduire des piles de Bibles. Donc, on a acheté sa maison, on a pris sa presse. Lui qui avait dit que 100 ans après sa mort, il n'y aurait plus rien qui existerait du christianisme, que le christianisme serait mort. On a imprimé avec sa presse des Bibles, puis on a fait de sa maison une maison d'édition pour des Bibles. C'est pas assez ironique? La Bible continue à atteindre la majorité des pays dans le monde. Par sa survie dans la persécution, Marc 13, 31 dit... Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La Bible est unique par sa survie. Essaie de la brûler, demande à un peuple au complet de la brûler, démets les gens de leur travail, enlève-leur leur liberté, mets-les en prison. Puis Dieu va lever un autre empereur qui va vouloir la faire imprimer, qui va vouloir la diffuser. Elle est aussi résistante aux critiques. Elle est remarquable par sa survie aux critiques. Plusieurs arguments qui visent à discréditer la crédibilité de l'auteur du Pentateuque. On appelle ça la haute critique. Il y a des gens qui, au début du siècle passé, ont dit ça n'existait même pas l'écriture dans le temps de Moïse. Je veux dire, Moïse ne savait même pas écrire. Puis les Hittites qu'Abraham mentionne, c'est même pas un peuple qui a vraiment existé. Et là, on met en doute que Moïse a écrit le Pentateuque. On dit que c'est 4 ou 5 personnes qui l'ont écrit bien plus tard quand l'Écriture existait. On peut avancer à la prochaine acétate. Donc, c'est ça, tu peux avancer. Hein? Donc, ça, c'est des présuppositions. Fait 1, prochain clic. Eh bien, on a retrouvé quelques centaines d'années avant Moïse, la stèle d'Amourabi. Et cette stèle-là, si on ferait une magnification sur la stèle, sur la statue, on verrait plein d'écritures cunéiformes, dont un alphabet avec images dans ce temps-là. Donc, ça vient défaire un petit peu la haute critique qui dit que l'écriture n'existait pas au temps de Moïse, puis les Hittites n'existaient pas. Bien, je vais vous montrer, prochain clic. 1200 ans d'histoire hittite. On a retrouvé 1200 ans d'histoire du peuple hittite qui a vécu au temps d'Abraham. Et ce n'est pas donc un mythe. Et quand la Bible parle des Hittites, elle ne parle pas d'un mythe, mais de vraies personnes qui ont existé. Puis je regardais le lion, puis ça s'appelle la porte des lions. Puis je trouvais qu'il y avait du talent. Je ne serais même pas capable de faire un beau lion comme ça. Donc, prochain clic. On m'a accusé. Ah, ça ici, c'est un des trois meilleurs archéologues au monde qui a dit: on m'a accusé d'enseigner l'inspiration littérale et absolue de l'Écriture. Je désire que ce soit bien clair. Je n'ai jamais enseigné cela. Voici que j'ai affirmé au cours de mes investigations archéologiques. Je n'ai jamais découvert un seul objet de l'Antiquité qui ait contredit aucune des affirmations de la parole de Dieu. Earl Radmacher. C'est un des trois plus grands archéologues du monde qui dit: dans tout ce que j'ai cherché, dans tout ce que j'ai trouvé, j'ai rien trouvé qui vient de l'Antiquité qui me dit que la parole de Dieu, c'est pas vrai ce qu'elle affirme. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? La Bible est unique par sa survie au temps. On a vu qu'à cause des matériaux dans lesquels, sur lesquels on écrivait, il y avait des nombres de copies impressionnantes qui sont restées. On a vu la méthode de conservation, que c'était lettre par lettre. On ne pouvait pas écrire de mémoire. Tout était compté avec les massorettes. On a vu que le nombre d'erreurs de copie ou d'incompréhension du sens d'un mot dans les 31 000 versets de la Bible, il y a entre 12 et 20 incompréhensions. Hein? Et on l'a mis en relief avec les 13 pièces de Shakespeare qui ont été écrites il y a 280 ans quand l'imprimerie existait, et qui est bourré d'une centaine d'erreurs qui affectent le sens même du texte de ces pièces-là. On a vu aussi que la Bible était unique par sa survie. Elle a été bannie, brûlée, condamnée. On a condamné ceux qui la possédaient. On a vu que 25 ans après, elle devient un document publié par l'Empire. Certaines personnes ont annoncé que le christianisme ne durerait pas, et leur maison est devenue une maison d'édition pour la Bible. On a vu qu'elle résiste aux critiques. La haute critique essaie de prendre la Bible en faute. Et l'archéologie finit par la défendre. Puis les meilleurs archéologues du monde ne trouvent rien qui la discrédite. Alors, c'était ça que je voulais vous présenter. La parole est à vous. Avez-vous des commentaires sur ce qui a été apporté ce soir?